Bonjour, donc je m'appelle donc Timothée Viette, je suis illustrateur et contributeur sur Krita et je voulais vous montrer une partie du moins des nouvelles fonctions pour la nouvelle version parce que l'intégralité des nouveaux changements serait trop long à montrer en 20 minutes, donc je vais vous montrer seulement les points vraiment les plus cool, je dirais, ou les plus marquants pour un utilisateur qui débarque sur Krita. Alors, pour commencer, ça, donc c'est l'écran d'accueil quand on lance Krita pour créer un nouveau document. Et on a une nouvelle option ici qui permet de choisir, parce que par défaut, le fond du blanc quand on crée une nouvelle image était fait par un calque blanc. Et donc, on était obligé toujours de créer un nouveau calque vide par-dessus pour dessiner, parce que si on dessine sur le calque blanc et qu'on efface directement, on se retrouve avec de la transparence, on voit la grille de transparence derrière, et pour la plupart des dessinateurs qui débarquaient d'autres logiciels qui n'avaient pas ce comportement-là, ça pouvait les perturber. Donc, on a une option maintenant pour choisir le fond comme Canvas Color, je sais pas comment ils vont le traduire en français, c'est pas encore traduit, mais qui permet du coup d'avoir un fond intégré dans le document et qui ne correspond même pas à un calque, du coup. Donc le premier calque est directement perçu ce fond de couleur dont on peut choisir la couleur et l'opacité, donc ça permet même d'avoir d'autres types de réglages par défaut. Ensuite, voici donc l'espace de travail pour la nouvelle version. Le changement le plus flagrant, c'est les nouvelles icônes pour globalement les outils et les barres de raccourcis en haut. Et dans la plupart des dockers, des panneaux de réglage, on a des nouveaux icônes monochromes pour avoir un style unifié et plus propre, plus professionnel. Et aussi qui est plus facile. Les icônes ont été retravaillées pour que les utilisateurs, pour qu'elles soient plus intuitives de savoir à quoi elles correspondent. Donc voilà pour les icônes et l'interface généralement. Et ensuite, ça c'est l'éditeur de brosse, de presets du moins pour créer des presets avec différents rendus de traits. Et donc on a des nouvelles options intéressantes. J'aurais commencé par ces options Smooth Lines et Spacing Auto qui combinées permettent d'avoir un trait d'ancrage tout le temps le plus propre possible à toutes les types de tailles, parce que pour l'instant on avait avant on avait un problème avec les presets. Par exemple, si on voulait optimiser un preset pour faire des traits très fins, si on agrandissait la brosse, on se retrouvait avec une brosse vraiment diffuse et plus vraiment dure. Et à l'opposé, si on faisait une brosse fine, assez grosse, si on la rétrécissait, on se retrouvait avec quelque chose qui faisait des pixels et qui n'était pas vraiment diffus. Et donc, ces deux options, Smooth Lines et Spacing Auto, permettent d'avoir un rendu indépendant de la taille de la brosse, en fait. Que l'espacement des points soit calculé automatiquement en fonction de la taille de la brosse pour avoir un rendu toujours anti-aliasé. Donc voilà. Ensuite, nouvelle option super intéressante. Ici, tout en bas, on a une case qu'on peut cocher avec Temporarily Save Tweaks to Preset et qui permet en fait de sauvegarder pour la session tous les changements faits sur un preset, c'est-à-dire si on va sélectionner un preset d'ancrage, changer la taille ou l'adapter à ce dont on a besoin, ensuite switcher sur un autre preset, et quand on va retourner sur le preset d'ancrage, même si vous ne l'avez pas sauvegardé, il va s'être souvenu de tous les changements que vous avez faits. Et si vous voulez ensuite retourner sur les réglages enregistrés de ce preset, il y a le bouton tout en haut, là, l'espèce de bouton pour recharger avec les deux flèches en cercle qui permet de recharger le preset de base. Et c'est aussi très pratique pour quand on édite des presets et qu'on a besoin de passer de l'un à l'autre pour vérifier certains réglages, et ça permet de ne pas avoir à sauvegarder à chaque fois le preset quand on passe de l'un à l'autre. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, pas mal aussi, on a cette pop-up là qu'on appelle le right click pop-up, donc qui apparaît quand on fait un clic droit par défaut, qui permettait déjà de choisir les presets favoris définis par l'utilisateur et de choisir une couleur et d'afficher les dernières couleurs utilisées dans ce cercle gris là. Et donc ça a été étendu en rajoutant les couleurs background et foreground sélectionnées sur ce côté-là. Et cette petite icône aussi a été rajoutée qui permet, en fait, il y a eu un changement. Au lieu de définir un set de presets favoris, on peut se créer plusieurs sets de presets, tous définis par un tag. Et donc ensuite, avec cette option, choisir juste le set de brosse que vous voulez en fonction du tag. Donc vous pouvez avoir un set ancrage, un set couleur, un set effet, etc. Et donc charger les presets favoris, différents sets. Donc ça permet d'avoir plus que juste la dizaine de presets disponibles dans ce raccourci. Voilà le petit menu dont je vous parlais, qui vous affiche les groupes que vous avez créés. Ensuite, on a des nouveaux workspaces. Les workspaces dans Krita, c'est donc des agencements de l'interface sauvegardés, parce que quand on a plus d'une vingtaine de panneaux disponibles qui ont chacun des fonctions différentes, on peut pas afficher tous les panneaux en même temps dans l'interface. Donc, ça permet d'avoir différents espaces de travail customisés pour différents types d'utilisation. Et donc par défaut, on a Big Paint qui est pour peindre, mais sur un écran, quand on dispose d'un écran assez grand, par exemple en 19-20-10-80. Big Paint 2, c'est un dérivé du même, mais qui a deux panneaux larges de chaque côté, qui permet du coup d'avoir plus de panneaux visibles en même temps. Et Big Vector qui a des panneaux différents, ou celui-ci plus optimisé pour le dessin vectoriel. Et Small Paint et Small Vector sont la même chose, mais plus optimisés pour les petits écrans. Donc normalement, ça a été testé jusqu'à 800 partitions, donc ça devrait tenir sur à peu près tous les écrans. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avant, justement, pour ouvrir Krita sur un petit écran, l'interface dépassait de l'écran et c'était pas très pratique. Donc par défaut, normalement la première fois qu'on lance Krita, maintenant ça doit choisir le preset Small Paint, donc tout devrait rentrer. Et ensuite, libre à l'utilisateur de choisir un autre workspace par défaut, plus adapté à son écran s'il est plus grand. Et aussi VFX Paint, du coup, qui est un espace de travail spécialement pour le travail d'effets spéciaux. Comme on a certaines fonctions comme la gestion de la couleur, Open Colorio, etc. pour les professionnels des effets spéciaux, donc on a inclus un espace de travail pour eux. Ensuite, une grosse nouveauté dans la nouvelle version, on va pouvoir créer et importer et exporter des bundles de ressources. Alors les ressources, ça va être aussi bien les presets que les masques de brosse ou les motifs, les patterns ou les dégradés ou bon, tous les contenus utilisateurs. Du coup, on peut tous les empacter dans une archive qui va la partager et ensuite l'importer. Alors voici la fenêtre pour créer les bundles de ressources. Dans l'entrée type en haut à droite, on peut choisir donc tous les types de ressources disponibles, donc les presets, mais comme je vous ai dit, aussi bien les masques de brosse et les patterns, etc. Mettre des commentaires appropriés. Ensuite, bon là c'est un peu vide parce que j'ai pas encore de ressources vu que c'est pas encore fini, mais ça ne saurait tarder. Ça c'est pour gérer les bundles installés, ce qui permet d'avoir plusieurs bundles installés mais d'activer qu'un certain nombre en même temps, ce qui permet de ne pas avoir des milliers de presets tout le temps actifs et juste d'activer ceux qu'on veut en fonction de ce qu'on fait. Nouveau Docker aussi, le color slider, c'était quelque chose qui manquait énormément pour choisir les couleurs précisément. On avait déjà différents types de sélectionneurs de couleurs, mais on n'avait pas qui décomposait comme ça en teinte, saturation et luminosité, ou plutôt on en avait un, mais juste il fallait double cliquer sur le sélectionneur de couleurs en haut et ça vous ouvrait une fenêtre en plus et là vous y avez accès, mais c'était pas du tout pratique à utiliser en temps réel. Donc voilà, on a ce nouveau panneau. Ensuite, on a beaucoup d'améliorations sur l'outil de transformation. Ça vient surtout du fait qu'on a lancé un Kickstarter cet été qui a plutôt bien marché, du coup, pour payer un développeur à plein temps et qui, du coup, travaille sur une liste de features à intégrer pour la nouvelle version, dont notamment donc l'amélioration de l'outil transformation. On a des nouveaux modes du coup de transformation qui n'existaient pas avant, dont le mode perspective qui permet de déplacer chaque coin indépendamment pour créer une transformation en perspective avec les points de fuite qui apparaissent respectivement. Et possibilité de déplacer le point de fuite directement pour déplacer la figure en fonction. Les autres modes ensuite qu'il a ajouté, on a le mode cache transforme, la transformation par cage qui permet de créer une cage point par point autour d'un élément pour le déformer de manière vraiment contrôlée, comme un peu comme un squelette mais un peu différent. Donc là par exemple vous voyez, pour déformer le bras j'ai pu faire quelque chose comme ça assez rapidement. Et ensuite, un autre mode encore de transformation qui est aussi très sympathique, c'est le mode Liquify. Il permet de faire des choses vraiment marrantes comme ça. Vous voyez là, par exemple, j'ai gonflé certaines parties du dessin, j'en ai déformé, étiré d'autres. Et donc, ça permet de faire des transformations plus artistiques ou des retouches différentes. Et la plus grosse amélioration ensuite qu'on a au niveau des transformations, c'est que outre le fait de pouvoir appliquer les transformations directement, on a maintenant des masques de transformation qui permettent de sauvegarder la transformation de manière non destructive. Et donc c'est juste dans les calques, une nouvelle option, créer masque de transformation, et du coup sur ce masque utiliser l'outil transformation et tout sera sauvegardé dans le masque, et si vous désactivez le masque vous récupérez l'état original de votre image. Et ce qui est plutôt pratique. Ah, et aussi une autre option dans le mode Liquify, on a un mode gomme qui permet de gommer certaines transformations, ce qui permet d'être plus fin au niveau de son travail. Si on voit qu'on a transformé un peu trop fort une partie, on peut utiliser le mode gomme et juste revenir un petit peu en arrière, mais pas complètement. Donc voilà la différence. Voilà pour l'outil transformation. Et voilà, en gros, les plus grosses fonctions qui sont déjà intégrées. On a, comme je disais, plusieurs autres fonctions en cours, dont le level of detail, qui est une branche sur laquelle on développe un moyen d'avoir les brosses beaucoup plus réactives en les faisant calculer d'abord sur la projection au niveau à la taille de l'écran, donc beaucoup plus petit que si vous travaillez sur un énorme projet. Il ne va pas calculer sur plusieurs milliers de pixels, il travaillera d'abord que sur la projection de l'écran, et ensuite en arrière-plan il travaillera sur il appliquera le trait sur la taille réelle de l'image. Mais c'est encore quelque chose en progrès qui risque de ne pas être sorti pour la 2.9 encore, mais qui devrait permettre d'avoir les brosses avec une performance comparable, voire supérieure aux autres logiciels les plus utilisés couramment par les professionnels, sans les citer. On a quoi d'autre comme branche? On a comme fonction en développement, on a donc un plugin d'animation qui a commencé cet été, qui est déjà relativement fonctionnel, mais encore... qui a encore besoin de beaucoup de travail pour être réellement utilisable par le grand public, donc il risque de ne pas être intégré dans la version 2.9 non plus. Mais on est en contact avec plusieurs studios pour avoir des financements pour développer réellement cette fonction de manière professionnelle. Et quelques autres nouveautés dont je me souviens plus là comme ça, parce qu'elles sont moins importantes, je dirais. Quelques questions vite fait.
Vas-y.
Alors, on prévoit sortir la version 2.9 d'ici la fin de l'année, donc courant fin décembre, mais c'est possible que ça soit retardé début janvier, si le temps que tout soit voilà, que ce soit vraiment tout corrigé, parce qu'il y a encore, il y a eu beaucoup de rien que les changements au niveau des moteurs de brosse et des choses comme ça, qui changent beaucoup de, enfin, qui sont vraiment très bas niveau dans le programme et qui peuvent avoir beaucoup de répercussions, donc ça demande encore pas mal de testing avant d'être sûr que ce soit prêt. Voilà. D'autres questions ?